un podcast France Culture.
Troisième jour de notre série sur les batailles du protectionnisme, après avoir assisté aux joutes théoriques entre défenseurs du libre-échange et partisans du retour des frontières, et évoqué les velléités protectionnistes de la France du 19e siècle, nous prenons aujourd'hui la direction des États-Unis, car c'est bien de l'autre côté de l'Atlantique que se dessine à l'heure actuelle un retour du protectionnisme, un retour vraiment ou une simple continuité. Parler du protectionnisme depuis 1945, nous sommes en compagnie de trois invités. Ali Laïdi, politologue, chercheur à l'école de guerre économique, chroniqueur à France 24 et auteur d'une histoire mondiale du protectionnisme publiée l'an dernier aux éditions Passé Composé, qui a reçu le prix du livre d'économie. Également avec nous Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, autrice de Géopolitique de l'économie, ouvrage paru aux éditions Erol. Et également avec nous Pauline Wibo, économiste au CEPI, au sein du programme Analyse du commerce international, une émission proposée par Aliette Ovine, Léa Sabourin, Diane Devancet, Laurence Genepin et Margot Bolotny. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, si on l'a vu hier, les thèses libre-échangistes s'imposent dans la bataille des idées dès le 19e siècle. C'est après la Seconde Guerre mondiale, Ali Laïdi, qu'on assiste à une libéralisation inédite des échanges.
Oui, très clairement. Même si dès cette époque-là, dès 1944, dans la Charte de la Havane, par exemple, on propose la création de l'Organisation internationale du commerce, qui est en fait l'ancêtre de l'OMC et du GATT. Mais en fait, le Congrès américain va refuser l'OIC. Et l'OIC, il y avait un équilibre entre l'ouverture, le libre-échange, mais aussi dans les statuts de l'OIC, la possibilité donnée aux États de se défendre, de se protéger lorsqu'il y a des menaces économiques. Bon, ça n'a pas remporté. Ce qui a gagné, c'est le GATT en 47. Et le GATT, c'est vraiment l'ouverture. Et puis, c'est un succès, très clairement. On était à 40-60% de moyenne de tarifs douaniers. On a chuté aujourd'hui à 3%.
Donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Sylvie Matelli, il y a toute une série d'institutions qui naissent et qui visent à promouvoir le libre-échange.
Alors, je crois que je ne suis pas sûre que l'objectif de ces institutions soit de la promotion du libre-échange, parce que sinon, le Congrès aurait validé l'OIC et l'Organisation internationale du commerce aurait été créée. Et d'ailleurs, quand on s'engage, quand on signe le GATT, il n'y a que 24 pays, donc on n'est pas du tout sur du multilatéralisme, un universalisme de ces choix, et 24 pays qui s'engagent au départ à négocier sur des droits de douane qui, comme l'a dit Ali, sont extrêmement élevés à cette époque-là. Mmh. Donc je crois que l'opposition protectionnisme-libre-échange, en fait, elle biaise complètement le débat et l'appréhension qu'on a du sujet. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'objectif, c'est la reconstruction et le développement avec une idée qui est claire et qui, pour le coup, est une idée libérale. Ça, c'est une réalité. L'idée que pour reconstruire très vite et pour assurer la paix et la stabilité du monde à long terme, donc durablement, il faut accompagner les pays dans leur reconstruction. Et pour accompagner les pays dans leur reconstruction, puis dans le développement économique, il faut des institutions qui permettent l'échange international, donc l'ouverture des économies, mais aussi, il y a le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, c'est-à-dire le financement de cette reconstruction. Donc si on part déjà de ce préalable, avec des États-Unis à l'époque qui ont bien compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à reconstruire et à accompagner la reconstruction de ces pays, le plan Marshall, ça va être quand même des investissements en Europe et finalement une sorte de distribution de pouvoir d'achat aux Européens. Ils avaient même proposé aux pays de l'Est de participer et à l'Union soviétique de recevoir ces fonds, donc distribution de fonds pour qu'ils puissent acheter des produits américains. Donc on est dans une idée de défense des intérêts américains, ce qui, admettez-le, est quand même un petit peu différent d'un libre-échange pur et dur tel qu'on pourrait l'imaginer, tel que le décrivent les théoriciens.
Il y a cet objectif de reconstruction, bien sûr, peut-être aussi cette idée, avec la création du GATT, donc en 1947, de mettre un terme au protectionnisme qui est considéré à ce moment-là peut-être comme l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale, Ali Laïdi.
Bah oui, clairement. Enfin, ça remonte avant les institutions de Bretton Woods. Dès la guerre, dès 43-44, il y a des rencontres entre Roosevelt et Churchill. Et ces rencontres sont basées aussi sur le futur du commerce. Et que demande Roosevelt ? C'est une ouverture beaucoup plus large du commerce mondial. Donc vous vous rendez compte, on est bien avant la fin de la guerre et on est déjà dans une perspective de libre-échange dans l'après-guerre.
Protectionnisme assez fort des États à cette période en raison de la crise de 29, de la Grande Dépression, Sylvie Matelli.
Oui, alors on a souvent dit que la cause de la Grande Dépression, c'était le protectionnisme. En réalité, c'est faux. En réalité, on était dans un monde plutôt ouvert, en fait, avant la crise de 29, voire même qui était plutôt dans une dynamique d'ouverture. Mais c'est en réaction à la crise de 29, la réaction primaire des États, la première des États, ça a été de se protéger et d'essayer de se protéger. Et il est évident que les conséquences de cette protection ont été analysées avant la guerre et pendant la guerre, en particulier aux États-Unis, qui avaient attiré un certain nombre d'intellectuels, dont John Maynard Keynes. Et c'est super important, John Maynard Keynes. Il y avait aussi Jean Monnet, parce que John Maynard Keynes, il avait participé à la négociation du traité de Versailles, qu'il avait fortement critiqué, on s'en souvient, dans ses conséquences économiques de la paix. Et il va tout faire. Alors, il va pas arriver au bout de sa logique, mais il va tout faire pour éviter qu'on reproduise les mêmes erreurs après la guerre. Et pour lui, éviter de reproduire les mêmes erreurs, c'est éviter de retomber dans ce travers de la protection. Quand on est attaqué, on se protège. Quand on se sent menacé, on se protège. Éviter de retomber dans ce travers, parce que pour lui, ce travers est délétère. Pas tellement pour l'économie. Il était plutôt protectionniste, d'ailleurs, par certaines de ses positions, John Maynard Keynes, mais plutôt pour des questions politiques, des questions de stabilité et de paix.
Alors, on l'a dit tout de même, la création du GATT va dans le sens de l'ouverture, mais le mois suivant cette création, hein, qui a eu lieu en octobre 1947, s'ouvre la conférence de la Havane, qui débouche sur une charte autorisant certaines mesures protectionnistes et qui prévoit la création de cette fameuse organisation internationale du commerce qui n'a jamais vu le jour. Pourquoi cette charte n'a-t-elle pas été ratifiée à
Tout simplement parce que le Congrès américain refuse de la ratifier.
Et quelle était la crainte ?
La crainte, c'était à la fois la capacité de voir des produits, notamment de l'ancienne colonie, enfin de l'ancien maître britannique, venir en masse et de poser sans doute le changement paradigmatique du monde, c'est-à-dire la prise en main du monde, le leadership par les États-Unis et non plus par la Grande-Bretagne qui a eu son 19e siècle, etc. Donc c'est ce basculement qui fait que les Américains sont à la fois pour une ouverture, mais également pour une protection dans l'objectif de diriger ce monde-là.
Sylvie Matelli.
L'argument qui est donné par le Congrès américain à l'époque, c'est une atteinte à la souveraineté américaine. Les États-Unis ne veulent pas signer un traité qui les contraindrait à négocier un abaissement des barrières tarifaires et donc qui pèserait sur leur souveraineté.
Donc c'est son caractère plutôt libre-échangiste que son caractère protectionniste hein, qui pose problème. Alors il y a cette ouverture, cette libéralisation des échanges. Au total, entre 1946 et 1980, le taux moyen de protection douanière passe d'environ 40% à près de 3%. Ouais. C'est absolument considérable. Cela entraîne une explosion des échanges en volume et en valeur.
Alors jusqu'en 80, oui, très clairement. Et il faut attendre cette seconde explosion que sera la chute du mur de Berlin pour rentrer vraiment dans une grande mondialisation, enfin la mondialisation qu'on a connue jusqu'à présent et qui semble un petit peu se limiter depuis un certain nombre d'années. Donc oui, il y a ces événements à la fois économiques mais également géopolitiques qui viennent totalement bouleverser la donne d'un marché. Et puis bon, faut pas oublier aussi, hein, au milieu des années 80, Margaret Thatcher d'un côté, Reagan de l'autre, deviennent adeptes des idées néolibérales portées par Hayek, etc. Et ouvrent une parenthèse, qui est une parenthèse néolibérale, laquelle se boucle aussi par les mêmes. C'est-à-dire que les États-Unis et la Grande-Bretagne ouvrent cette parenthèse au milieu des années 80 sur l'ouverture générale de la mondialisation et la referment en 2016, avec le Brexit côté britannique et l'élection de Donald Trump côté américain.
Mais avant d'en venir à cette période, et à, peut-être qu'on pourrait appeler l'âge d'or de la mondialisation, que sont les années 90, Sylvie Matelli, peut-être un mot encore sur les 30 Glorieuses et de ces décennies d'après-guerre, puisque même si on assiste à cet essor du libre-échange, le protectionnisme ne disparaît pas complètement. Il y a de nombreuses entorses aux règles du GATT.
Et c'est pour ça que je pense que c'est plus juste, plutôt que de parler de libre-échange, de parler d'ouverture commerciale, en fait, et de développement du commerce. Et encore une fois, on ne développe pas ce commerce, ou en tout cas les États-Unis ne se décident pas finalement à aller signer le GATT. Ils n'étaient pas partie prenante hein, du premier accord, c'est un accord purement européen, mais ils décident d'aller signer ce projet, tout simplement parce qu'ils sont convaincus que la reconstruction et la paix, donc des raisons politiques, ne seront permises que par un développement du commerce. Et à côté de ça, ça leur a pas empêché dans les années 60, 70, et Ali décrirait cela bien mieux que moi, ça ne les a pas empêchés d'avoir une attitude protectionniste quand il s'agissait de défendre leurs intérêts. Et en fait, les intérêts des États-Unis ont toujours été le même. S'ils sont partisans du libre-commerce, ou en tout cas du développement du commerce international, c'est parce que ça permet à leurs consommateurs d'accéder à des produits à bas prix. Aujourd'hui, ils ont décidé que le prix à payer pour la classe populaire américaine, et en particulier l'ancienne classe ouvrière américaine, était trop coûteux. Donc on allait modérer un petit peu ce libre-commerce. Mais jusque-là, ils étaient plutôt dans une idée que le surplus était positif. Par contre, ils n'ont jamais cessé de défendre leur supériorité et leur avance technologique parce qu'il y a des enjeux de guerre et de sécurité nationale. Et j'en veux pour preuve le déficit commercial. Il n'est pas qu'avec la Chine, ce déficit commercial, et depuis des décennies. Le déficit commercial américain, il est aussi avec l'Europe depuis des décennies, et pourtant ils ont continué pendant longtemps à soutenir le commerce. Donc on voit qu'il y a une petite différence entre le libre-échange qui n'a jamais existé et les choix américains qui sont motivés par leurs intérêts, en fait.
Concrètement, comment se déroulent ces contournements aux règles du GATT par les États-Unis?
Deux exemples. Le premier, c'est vrai que ça se fait du côté des États-Unis, mais ça se fera aussi du côté du Japon et des pays asiatiques, qui seront des pays fermés. Donc leur marché sera fermé, même s'ils participent au GATT. Mais du côté des États-Unis, deux exemples. L'agriculture. Énorme subvention des États aux paysans, aux agriculteurs américains, de la part des fonds fédéraux américains pour soutenir les prix, soutenir la production, etc. à travers ce qu'on a appelé les Farm Bills. C'est la multiplication des lois sur l'agriculture américaine qui ont été très fortes. Deuxième exemple, c'est les États-Unis ont obligé les partenaires, donc leurs partenaires, essentiellement le Japon et l'Europe, a signé des accords de réduction de leurs exportations vers les États-Unis. Totalement illégal au nom des règles du GATT. Mais contourné par les États-Unis avec une pression très forte en disant si vous ne le faites pas, notamment sur l'automobile, sur l'électronique, sur l'agriculture, sur le textile, les chaussures, etc. Si vous ne le faites pas, alors le Congrès va se saisir de cette question et il va y avoir une loi au Congrès pour vous empêcher d'exporter autant.
Or, aucun pays ne peut prendre le risque de se brouiller avec la première puissance commerciale mondiale.
Donc, ils ont tous signé des accords de restriction de leurs exportations.
Et si pendant cette période d'après-guerre, les échanges augmentent considérablement, c'est aussi ou peut-être surtout à l'intérieur de certaines zones, notamment la nouvelle communauté économique européenne.
Le ministre des Finances, M. Giscard d'Estaing, a fait le point des négociations qui ont cours en ce moment à Genève entre la délégation américaine et la délégation européenne, celle des six, à propos des tarifs douaniers européens et américains dans le cadre de ce que l'on appelle le GATT. Pouvez-vous nous expliquer où l'on en est parvenu à Genève?
Nos amis américains ont commencé par applaudir à la naissance du marché commun. Et puis, au fur et à mesure que le marché commun se développait, ils se sont rendus compte que ce développement comportait des répercussions sur leur propre commerce. Les six pays réduisent entre eux les barrières douanières qui les séparaient, mais en même temps qu'ils réduisent ces barrières entre eux, ils s'entourent, tous les six, d'une barrière douanière unique. Alors, les pays comme la France et l'Italie, qui avaient des barrières élevées, les abaissent, mais des pays comme l'Allemagne ou la Hollande, qui avaient des tarifs douaniers bas, les élèvent, de manière à faire une moyenne.
Est-ce que je dois comprendre que, même si ça ne leur fait pas plaisir aux Américains, bien, la France va les envoyer promener?
Je ne crois pas que l'on puisse dire ça. Nous sommes tout à fait disposés à négocier avec les Américains dans un esprit de solidarité atlantique, mais à une condition, c'est que les intérêts essentiels de l'Europe en général et de la France en particulier ne soient pas sacrifiés.
Le retour du protectionnisme, point d'interrogation, c'est notre sujet aujourd'hui sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Matelli, Pauline Wibo et Ali Laïdi. Et on vient d'entendre le ministre de l'Information, Alain Perfitte, dans une archive de 1963. Que vous inspirent ces propos, Sylvie Matelli?
Alors je trouve intéressant de revenir sur cette période parce que c'est vrai qu'il faut bien prendre conscience que pendant les Trente Glorieuses, c'est vraiment l'émergence d'une politique commerciale européenne qui, à un moment donné, va véritablement inquiéter les États-Unis. Parce qu'au fond, dans les premières années d'ouverture commerciale, ils sont quelque part les rois du pétrole, si vous me permettez l'expression, d'ailleurs au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire, c'est eux qui ont les grandes entreprises, c'est eux qui peuvent exporter des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie et des hydrocarbures, et puis tous les produits manufacturés. Et l'arrivée et imposer leurs règles en plus, parce que tous les autres sont tout petits et largement affaiblis par la guerre. Et donc l'arrivée, la construction européenne vient modifier cet équilibre. Et c'est vrai qu'à partir des années 60, on va avoir deux grands partenaires qui négocient au GATT ou plus tard à l'OMC, ce seront les États-Unis et l'Europe. Et au fond, je vais dire jusqu'en 2003, chaque fois qu'il y avait un accord entre ces deux partenaires, il y avait un accord au GATT ou à l'OMC. Et en 2003, on voit arriver de nouveaux perturbateurs ou fauteurs de troubles. Ce sont les pays émergents, ce sont les pays du Sud qui se fédèrent, s'allient pour s'opposer d'ailleurs à toutes les mesures mises en place par les Américains, mais qui sont aussi mises en place par les Européens, parce que les Européens aussi ont une politique agricole commune qui a été extrêmement protectionniste.
Absolument.
Eux aussi ont imposé des restrictions volontaires aux exportations. Et à partir du début des années 2000, on dit stop, ça suffit. Vous avez imposé vos lois pendant très très longtemps. On arrête tout, on arrête le jeu. Force est de constater que ça n'a pas beaucoup servi les intérêts de l'OMC, qui est quand même en panne depuis cette période-là.
Et les États-Unis se plaignent de cette création de la Communauté économique européenne en 1957. Ils redoutent une Europe qui se referme sur son marché intérieur. Mais ce que l'on va constater dans les décennies qui suivent, les ladies, c'est la formation d'autres alliances régionales, et notamment de l'ALENA, donc l'alliance des États-Unis avec le Mexique et le Canada.
Oui, c'est vrai que la CEE, pour reprendre des termes de l'époque, le marché commun, etc. Je crois que c'est des 30 ans du marché commun. Très bientôt. Donc ça va être un modèle. Et d'ailleurs, ça a été le grand modèle du soft power des Européens, de dire on est fort, on a créé un état de commerce, de paix, etc. Et c'est sur cette base-là qu'on va faire notre soft power. Et on voit bien les limites de cette réflexion. Donc ça va en effet donner des idées à d'autres zones, Amérique du Nord, mais aussi Amérique du Sud. Et puis, plus récemment aussi, les Chinois vont créer, à travers le aussi des tentatives de zones de libre-échange entre eux, etc. Donc ça va être en effet un modèle. Alors, qui va ravir la fin des années 40 les Américains, parce que quand même, ils vont souffler. Deux guerres mondiales en quelques dizaines d'années sur le territoire européen, il est temps que ça s'arrête. Donc ils voient ça plutôt d'un très bon œil, jusqu'au moment où en effet, l'Europe devient un vrai concurrent, capable de concurrencer les produits américains sur absolument tout le spectre des secteurs économiques. Et c'est pas que l'entrée des émergents, alors évidemment Amérique du Sud, mais aussi Australie, néo-zélandais, qui arrivent aussi sur les problématiques agricoles. Ce n'est pas que leur entrée et dans le GATT qui fait qu'il va y avoir des bisbilles, un arrêt des accords. C'est aussi parce qu'en effet, entre Washington et Bruxelles, il y a vraiment une concurrence très sévère économique et que les Américains comprennent que ce n'est pas forcément leur intérêt d'aider les Européens à éviter la guerre sur leur territoire et que c'est devenu vraiment un partenaire économique de premier plan.
Ce que l'on voit bien, c'est que malgré la volonté qui semble assez partagée d'une ouverture économique, il y a des tensions qui subsistent entre protectionnisme et libre-échange tout au long de ce second XXe siècle. Pourquoi le GATT devient-il l'OMC en 1995? Qu'est-ce que ça change, Sylvie Matelli?
Alors, c'est intéressant de regarder la genèse de l'OMC. L'OMC, c'est peut-être la seule réussite, la seule conclusion durable du round de l'Uruguay, du cycle de négociation de l'Uruguay. Vous souvenez, c'est ce cycle de négociation qui avait achoppé sur l'exception culturelle. Nous, Français, on portait l'exception culturelle. Il fallait préserver et protéger la culture. C'était pas un bien commercial comme les autres. Et les Américains défendant Hollywood n'étaient pas tout à fait d'accord avec notre approche sur le sujet.
C'est ce qui a fait durer les négociations 4 ans de plus ?
C'est ce qui a fait durer les négociations plus longtemps. Et effectivement, la seule issue qu'on ait trouvée à cette négociation, c'est de réaliser finalement une proposition qu'avait faite Bill Clinton au départ, c'était de créer une organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire une institution pérenne qui permettrait de négocier. Alors, qu'est-ce que ça change ? Je serais tentée de dire que ça change pas grand-chose, puisqu'aujourd'hui, elle est complètement bloquée et qu'elle subit le fait qu'il y a trop de sujets à l'agenda des négociations, trop de pays avec des intérêts divergents pour négocier, et donc ça patine un petit peu le cycle de Doha, qui était le cycle pour le commerce et le développement, un bel espoir au début des années 2000. Pour l'instant, il patine, il fait plus que patiner. Même.
Oui, mais au début des années 90, la création de l'OMC est vue comme une
tout
réussite.
À fait. Et alors, la création de l'OMC, ce qu'elle change, c'est qu'au-delà, l'OMC intègre plusieurs négociations, non seulement les négociations sur le commerce, le GATT est toujours partie de l'OMC, des négociations sur les services, voire à l'époque, on espère pouvoir négocier sur les questions de propriété intellectuelle et le commerce lié à la propriété intellectuelle. Il y a également un organe qui est créé pour le règlement des différends, ça c'est assez nouveau. Et enfin, un autre organe qu'on oublie souvent et que je trouve très très intéressant, moi je le conseille à tous mes étudiants pour trouver de l'information et de la documentation sur les politiques commerciales des États, c'est l'organe d'examen des politiques commerciales. C'est-à-dire l'OMC se positionne comme un arbitre, non seulement par rapport aux différends entre les États, mais aussi comme un arbitre de l'évolution, de l'avancée des politiques commerciales. Les États sont tenus de publier tous les 4 ans, me semble-t-il, leur politique commerciale. Et il y a un rapport d'évaluation qui est émis, alors sans aucune conséquence pour les États, donc ça reste quelque peu lettre morte, mais c'était perçu au départ comme une avancée.
Je crois qu'il faut insister là-dessus. C'est, en fait, le passage du GATT à l'OMC, c'est évidemment ouvrir encore plus les négociations sur d'autres secteurs, mais aussi de créer la possibilité de sanctions, qui n'y avait pas vraiment dans le GATT. Et donc, on va créer l'ORD, et les plaintes en première instance, puis ensuite l'organe de règlement des différends. Et c'est ça aussi qui diffère du GATT et qui fait qu'on a senti en 94, donc avant l'OMC, qu'il fallait un organe pour pouvoir départager les dissensus qu'il y avait au sein de l'OMC.
Et pour donner un exemple, c'est par exemple Boeing et Airbus qui ont été présentés devant l'OMC, leurs différends.
Ouais.
Dans les années 90, si l'OMC est créée, c'est aussi parce qu'il y a un consensus autour des bienfaits de la mondialisation, Sylvie Matelli ?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, on sent bien qu'on est en train de rentrer dans une impasse. Parce que...
Dès les années 90
du trop grand succès de l'OMC et du GATT, c'est-à-dire il y a de plus en plus de pays autour de la table qui négocient et qui défendent leurs intérêts. Il y a de plus en plus de dossiers, de sujets qui sont mis à l'agenda. Donc ça devient de plus en plus compliqué de négocier et d'aboutir à un accord. On prend du retard dans les cycles de négociation qui s'allongent au fil du temps. Et au fond, si on crée une institution, peut-être qu'il y aura des salariés permanents qui suivront ces dossiers. Peut-être qu'on aboutira plus facilement à quelque chose de solide et de constructif. Et dès les années 90, c'est intéressant votre question, parce que je vois le paradoxe entre le fait qu'on est dans la grande période de la mondialisation où le libre-échange finalement est l'alpha et l'oméga de toute politique économique, et ça paraît paradoxal que l'OMC n'ait pas fonctionné. Non, justement, ça traduit le fait que on a ouvert les économies parce qu'on avait intérêt à ouvrir ces économies, et donc en comprenant bien l'intérêt qu'on avait à les ouvrir. Et donc, en sachant où étaient les lignes rouges à ne pas franchir et à ne pas dépasser. On n'était pas du tout dans une logique et une conviction libre-échangiste. Je serais tentée de dire que peut-être seule l'Union européenne y a cru, et elle y a cru par la force des choses, comme on l'accusait côté États-Unis de forteresse Europe, de se protéger. Elle a voulu donner des gages. Et puis peut-être un complexe d'infériorité, c'était les anglo-saxons, c'était Margaret Thatcher, Ronald Reagan qui avait lancé la vague de cette ouverture, et l'Union européenne voulait montrer qu'elle n'était pas à la ramasse, en fait, qu'elle n'était pas en queue du train. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait eu des convictions véritablement partagées et universelles sur la question de l'immigration.
Et n'oubliez pas que le GATT faisait très guerre froide et qu'il fallait passer à autre chose, parce que un pan des secteurs était tombé de l'autre côté, c'est-à-dire côté libre-échange, les PECO, les pays d'Europe de l'Est et orientale, etc., la Chine,
mais
qui
justement,
réclame dès ces années-là.
Est-ce qu'il n'y avait pas cette idée, que le libre-échange devait apporter la paix et la démocratie? Est-ce que ça, ce n'était pas une idée dominante,
l'idée dans les années 90? Et puis alors, c'est l'idée dominante que reprend Bill Clinton, au début des années 80.
C'est quand même une vraie foi dans le libre-échange.
Premier mandat de Bill Clinton, il tape à boulet rouge contre les autocrates, notamment en Iran et en Chine. Donc, deuxième mandat, tout à coup, il est beaucoup plus ouvert et pense, en effet, parce que au sein du think tank du Pentagone, la Rand Corporation, il y a des penseurs qui disent que l'ouverture économique va aboutir en Chine à la démocratie. Ils en sont persuadés. Nous aussi, en Europe, à cette époque-là, on en est également persuadés. Donc oui, la Chine est déjà dans les tuyaux. Elle l'est dès le milieu des années 80, où elle frappe à la porte des institutions internationales, sauf qu'il y a un blocage, 89, Tiananmen, le massacre de la contestation des jeunes, etc. Donc on va bloquer les négociations sur l'entrée de la Chine au GATT, puis après à l'OMC.
Elles n'aboutiront qu'en 2001.
Voilà, et la géopolitique joue très fortement. En 1994, c'est quoi, 4 ans, même 3 ans après la fin de l'Union soviétique.
Or cet espoir, évidemment, que la Chine devienne démocratique est rapidement déçu. Non seulement la Chine demeure autoritaire, mais... Et en réalité, elle reste aussi protectionniste. Sylvie Matelli, elle ne joue pas le jeu du libre-échange et de la mondialisation.
Non, elle fait comme tout le monde, en fait. Hein. Moi, je suis même pas certaine que dans les années 90, on ait vraiment cru à ce discours politique. Je pense qu'il y avait plusieurs choses. D'abord, c'était plus la fin de l'histoire, l'idée qu'au fond, le capitalisme est un système économique supérieur qui aboutit à la prospérité, au développement économique. Et donc, il faut aider ce capitalisme et les acteurs économiques, les agents économiques, en leur accordant le plus de liberté possible. Donc on est vraiment plutôt dans cette logique-là, qui est une logique plus politique qu'économique d'ailleurs. Et le deuxième élément, c'est l'idée que tôt ou tard, quand il y a un développement économique, et ça c'est empiriquement fondé en fait, hein, tôt ou tard, quand il y a un développement économique, vous avez un processus de démocratisation. Parce que quand vous avez l'apparition d'une classe moyenne, l'élévation du niveau de vie, cette classe moyenne étudie, cette classe moyenne veut participer, et toutes les révolutions sont parties en fait d'un début de développement économique et un appel, alors pas toutes, j'exagère, mais un certain nombre de révolutions sont parties de là.
Et donc, la Chine semble être un contre-exemple.
La Chine, pour le coup, a contredit totalement cette idée-là. C'est-à-dire, en général, on considère que c'est entre 4 000 et 8 000 dollars par an et par habitant que les tensions pour une démocratisation se font sentir. Et c'est vrai que la Chine a passé ce cap au tournant des années 2000, entre 2005 et 2010, et on n'a pas vu cette démocratisation. Mais je crois que c'est plutôt en cela qu'on croyait, et la Chine a été un contre-exemple. Même si la Chine n'a été qu'un demi-contre-exemple, parce qu'elle a toujours très bien naviguée, elle a toujours été très pragmatique, elle a toujours, jusqu'à aujourd'hui peut-être, elle a toujours su profiter des règles libre-échangistes à son service, ne pas les respecter quand elle considérait que ça ne servait pas ses intérêts, et en même temps, en interne, donner suffisamment de liberté aux acteurs économiques pour qu'ils assurent le développement de leur économie.
Donc si les années 90 sont une forme d'âge d'or de la mondialisation, la crise financière de 2008 va agir comme un déclencheur. On en parle dans un instant.
Rapaces de la mondialisation sont si voraces qu'on y laissera nos caleçons. Leur seul langage en réponse à nos questions, c'est bien dommage, c'est celui de la répression. Ils nous dictent ce qu'on aime, ils imposent au monde entier leurs films ou leurs OGM qu'on achète sans sourciller. Ils distribuent de la farine aux pays où les sous-sols par hasard ont du platine, de l'or, du pétrole. Tous les rapaces de la mondialisation sont si voraces qu'on y laissera nos caleçons. Provoquent des famines, proposent des guerres clés en main. Sans vergogne, ils éliminent ceux qui encombrent leur chemin. Ils s'approprient l'eau, la terre et ses nouveaux Stakhanov relouquent les forêts primaires, un hôtel de golf. Tous les rapaces de la mondialisation sont si voraces qu'on y laissera nos caleçons.
La mondialisation, Pierre Perret sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho, le retour du protectionnisme, c'est notre sujet aujourd'hui. Sylvie Matelli, Pauline Wibo et Ali Laïdi sont toujours avec nous dans cette émission réalisée aujourd'hui par Françoise Le Floch et Félicie Faugère et mise en onde par Marie-Claire Oumabadi. Alors si le protectionnisme n'a jamais vraiment disparu dans les décennies qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire qu'il est en quelque sorte revenu en force dans le discours d'abord au lendemain de la crise financière de 2008.
Oui, c'est là qu'on voit apparaître les premières mesures hein, qui sont à l'époque mesurées par un certain nombre d'ONG spécialistes de cette vision mondiale, notamment Trade Alert, hein, qui est une ONG située en Suisse, qui remarque en effet qu'il y a de plus en plus de mesures protectionnistes et en particulier, évidemment, sur l'agriculture de la part d'un certain nombre de pays. Donc là, c'est le retour du protectionnisme et évidemment, c'est le retour de l'État aussi. Alors, est-ce que c'est lié en partie, et évidemment, la crise de 2008, c'est quand même un certain nombre d'entreprises puissantes qui vont frapper à la porte des États, notamment à leur ministère de l'économie, pour réclamer de l'argent et pour éviter la faillite. Bon, Lehman Brothers n'a pas pu les vider, mais d'autres, General Motors, etc., ont réclamé et obtenu des milliards de dollars de la part de leur gouvernement, idem en France et en Europe. Donc c'est ce retour de l'État dans l'économie qui fait que, bah, en effet, à partir de 2008, les mesures protectionnistes vont augmenter et plus les crises vont se multiplier jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire Brexit, Trump à la Maison-Blanche, pandémie, guerre d'Ukraine, etc., plus cela va confirmer l'approche de l'État dans l'économie et la nécessité pour l'État, pour au moins ceux qui le dirigent, de protéger les populations à travers le protectionnisme.
La crise de 2008 donne finalement de nouveaux arguments à ceux qui estiment que la mondialisation est responsable à un coût social et écologique particulièrement important, Pauline Wibo.
Oui, je pense que la crise de 2008 a beaucoup joué et comme le disait Ali Laïdi, on a surtout l'accumulation de ces crises qui, au fur et à mesure, vont faire naître des nouvelles formes de protectionnisme, en fait. Et on va avoir, à mon sens, trois grandes dynamiques. On a la première où on a la pandémie du Covid qui met au jour, justement, ces dépendances stratégiques et qui, comme l'a dit Ali, remet sur le marché cette question des subventions pour les entreprises où l'État va intervenir beaucoup plus. En parallèle, on a cette question climatique qui fait que justement les États vont aussi beaucoup plus avoir recours aux normes environnementales et écologiques. Et enfin, pour saupoudrer le tout, on va avoir cette dimension géopolitique et géostratégique qui prend de plus en plus de place. Et donc tout ça mis ensemble, ça donne ces nouvelles formes de protectionnisme qui sont beaucoup moins classiques que les droits de douane et les quotas qu'on avait l'habitude de voir pendant le GATT et au début de l'ONC. Et on a en fait des politiques qui sont beaucoup moins transparentes que justement ces simples droits de douane et qui sont aussi beaucoup plus discrétionnaires puisque à cause de cet argument géopolitique, on a maintenant des politiques qui dépendent énormément de l'amitié et des inimitiés en fait entre les pays.
Et ce protectionnisme, il est justifié au nom de la protection des plus faibles. Hein. C'est ce qu'on observe à la fois dans l'opinion publique et dans les relations commerciales, Sylvie Matelli.
Alors, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Moi, je dirais qu'au moment de la crise de 2008, il y a deux éléments qui entrent en ligne de compte. Le tout premier, et je vous invite à aller regarder, on le trouve assez facilement sur n'importe quelle bonne plateforme vidéo sur Internet, les auditions qui avaient été réalisées à l'époque par le Congrès américain et menées par Elizabeth Warren, les auditions à la fois des financiers et de ces banquiers qui avaient mené l'économie mondiale au bord de la faillite, et de Alan Greenspan. Et pour ne citer qu'Alan Greenspan, alors ils sont tous sonnés, ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Alors les premiers, les banquiers, on peut se dire que ils ont fait un petit peu n'importe quoi et qu'il faut... il est de bonne guerre d'être sonné. Alan Greenspan, je pense qu'il est sincèrement, il s'est pris une véritable claque.
Président et la seule Fed, chose à ce moment-là,
qui était, le président de la Fed, qui venait de prendre sa retraite, mais qui a été considéré comme l'un des grands responsables de la prise de risque et donc de la crise de 2008, de la prise de risque des marchés financiers par la dérégulation. Et lui, la seule chose qu'il arrive à dire, et il est complètement hébété quand il dit ça, c'est ah mais au moment de la faillite de Lehman Brothers, le monde s'est effondré autour de moi. Je pensais que personne ne pouvait agir contre ses intérêts. Et donc là, il y a vraiment cette prise de conscience des États que l'ultralibéralisme, l'ultralibéralisation, c'est la jungle, avec tous les effets pervers. Et l'effet pervers principal, et on revient à la question que vous m'avez posée, c'est que quand il y a une crise, elle est souvent causée par les mieux placés, par les plus avantageux, au détriment, et ceux qui en subissent directement les conséquences, c'est les plus précaires. Et on s'apercevra très rapidement dans la suite des événements que les plus précaires bien finissent par se soulever, finissent par voter contre le système. C'est l'effet Trump, c'est les gilets jaunes, etc., etc. Et là, il y a vraiment une crainte sur la démocratie de la part des pouvoirs publics.
Et c'est aussi le Brexit.
L'Europe n'a pas réussi à se protéger elle-même face à l'acier chinois. Ils s'en fichent de la Grande-Bretagne. Mittal ferme ses usines. La France a été touchée, elle aussi. Faire partie de l'Europe n'a jamais protégé personne. On devrait voter pour sortir, prendre le contrôle. Contrôler nos frontières, contrôler ce qu'on importe et exporte. On est une île. On devrait être autosuffisant.
Voilà, c'était le témoignage de Gardi Mal, qui est chef d'équipe chez Tata Steel au Pays de Galles. Et donc, cette poussée protectionniste qu'on observe après la crise de 2008 mène à la fois au Brexit en 2016 et puis à l'arrivée de Donald Trump en 2017. Un mandat de Trump à l'Ilaïdi qui va être marqué par des politiques très protectionnistes.
Oui, et avoué. En gros, Donald Trump va avouer ce que fait l'Amérique depuis un certain nombre de décennies. Et lui, il va le dire tout court. Il va même ajouter, souvenez-vous, j'aime les guerres économiques. L'Amérique aime les guerres commerciales parce que l'Amérique les remporte à chaque fois. Donc, c'est assumé de ce côté-là des États-Unis. Et alors, il y a autre phénomène qui nous a fait comprendre et dessiller les yeux. Hein, c'est l'extraterritorialité du droit américain. La manière dont les Américains ont porté atteinte aux intérêts des entreprises européennes en les taxant à travers des amendes pour des faits réalisés en dehors du territoire américain, des faits de corruption ou de violation d'embargo, etc.
C'est justifié par une volonté de ne pas avoir de distorsion de concurrence par les États-Unis.
Non. Enfin, sur la corruption, oui. Sur la violation des embargos, non. Violation des embargos, c'est pas une problématique de distorsion de concurrence, c'est tout simplement une problématique politique. À partir du moment où nous, Washington, nous ne commerçons pas avec tel pays, vous n'avez pas non plus, vous, le droit de commercer avec tel pays. Au nom de quoi aucune règle internationale n'oblige ces pays à suivre le dictat américain là-dessus. Donc, on va en effet en Europe dessiller les yeux et comprendre qu'il se passe des choses. Alors, c'est drôle parce que votre extrait porte sur l'acier, mais il se trouve que c'est peut-être l'un des rares secteurs où l'Europe a pris conscience de sa vulnérabilité et à travers la rénovation de ce que Bruxelles appelle les outils de défense commerciaux, qui ont été rénovés à partir de 2014, 2015, 2016, alors qu'ils n'avaient pas été rénovés depuis 1995, donc près de 6 ans avant l'entrée de la Chine dans l'OMC, eh bien, l'acier, c'est sans doute l'un des secteurs qui a été le plus protégé et qui n'est pas mort. Je veux dire, le photovoltaïque est totalement mort à cause du dumping de la part des Chinois. D'autres secteurs sont totalement affaiblis par ça. Mais pour le coup, l'acier, l'Europe, là, s'est un peu réveillée et a protégé l'acier européen.
Non seulement Pauline Vibeau, Donald Trump a assumé la position protectionniste des États-Unis, mais il est aussi allé particulièrement loin en la matière, en lançant une guerre commerciale contre la Chine.
Oui, oui, définitivement. Et il a... il a assumé. C'est pas été un précurseur. On avait déjà des conflits commerciaux avant, même sous la présidence d'Obama, que ce soit avec l'Union européenne ou avec la Chine. Mais en effet, Donald Trump a définitivement assumé cette position, a utilisé une clause de sécurité nationale pour pouvoir appliquer des droits de douane supplémentaires. Donc là, une mesure plutôt classique, mais avec un moyen plutôt détonnant et plutôt inhabituel. et ça a pris sur les autres partenaires commerciaux. Donc bien sûr, on retient les États-Unis et la Chine, mais le Canada, le Mexique, l'Union européenne et la Corée du Sud en ont aussi énormément pâti.
Donald Trump qui porte une lourde responsabilité dans la mort clinique de l'OMC, Sylvie Matelli.
Oh. Ça commence avant lui.
Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. L'OMC ouais. patine quasiment depuis son origine et sa création. C'est une belle idée, mais portée plutôt sur des discours politiques que sur une volonté politique. Donc Donald Trump
a quand même bloqué le renouvellement des juges au sein de l'organisation. Alors, de règlement des différends.
Et le paradoxe, c'est qu'il bloquait le renouvellement des juges tout en déposant moult plaintes devant l'organe de règlement des différends. Donc on voit toute la contradiction du personnage.
Oui, puis vous noterez que Biden n'a pas non plus laissé la nomination de ses juges. Il est là depuis 2 ans. Hein.
Tout à fait. Et que sur les questions, la question des brevets sur laquelle il fallait avancer très rapidement au moment de l'arrivée des vaccins, on a à ce jour, à ce stade, très peu d'avancées. Donc je crois que Donald Trump a continué en le criant haut et fort, des choses qui étaient déjà pratiquées par ses prédécesseurs et qui ont été poursuivies par Joe Biden.
C'est pas très, très clairement, je pense que c'est au-delà du protectionnisme. Ce à quoi on assiste depuis 5-6 ans, c'est un réarmement économique. De la part des États-Unis, pas seulement dû à la question de la Chine, de l'affrontement de la Chine, mais très clairement aux États-Unis, réarmement économique également de la Chine, s'est lancé sur des décisions, des votes de loi miroirs. C'est-à-dire qu'ils ont regardé les lois américaines et ils ont voté quasiment les mêmes. Réciprocité, terme très fort que nous, évidemment, Européens, on ne connaît pas. Donc la Chine, les États-Unis, réarmement aussi de la part du Japon, réarmement économique, etc. Donc voilà, nous, on est en face d'un phénomène qui va au-delà du protectionnisme et qu'on doit prendre en compte.
Alors justement, il faut évoquer évidemment l'Inflation Reduction Act qui a été adopté cet été par les États-Unis, loi de réduction de l'inflation. On sait que c'est moins pour lutter contre la hausse des prix que pour doper l'industrie américaine et attirer des entreprises étrangères sur le sol américain. Ce sont des mesures législatives, subventions, crédits d'impôt qui représentent en tout près de 400 milliards de dollars. Avec ce projet, Pauline Wibo, on peut dire que Joe Biden s'inscrit dans la droite ligne de son prédécesseur ?
Oui, je pense que il est clairement pas en train de défaire ce qui a été fait avant et on continue dans cette direction. Je pense que pour le coup, l'IRA, c'est un très très bon exemple et une très belle mise en pratique de ce nouveau concept de friendshoring que les Américains ont mis sur la scène internationale l'année dernière.
Et ça veut dire commercer avec les amis.
Exactement, cette idée de commercer avec les amis ou de relocaliser la production chez des amis. C'est exactement ce que veulent faire les États-Unis via cette IRA, puisque les subventions sont conditionnées à la localisation de la production, en fait. Que ce soit, pour l'instant, c'est les États-Unis. On discute du Canada et du Mexique.
Les Européens aimeraient bien rentrer dans le schéma.
Voilà, les Européens veulent absolument rentrer dans le schéma pour du coup ne pas perdre les entreprises qui pourraient produire sur leur territoire et qui se relocaliseraient aux États-Unis. Mais on est définitivement sur une mesure a priori environnementale, mais finalement protectionniste.
Alors justement, sur la réaction de l'Union européenne, je vous propose d'écouter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'était le 4 décembre dernier.
There's a risk. Il y a un risque que l'Inflation Reduction Act puisse entraîner une concurrence déloyale, fermer des marchés et fragmenter les mêmes chaînes d'approvisionnement stratégiques qui ont déjà été mises à l'épreuve par la Covid. Nous devons examiner ces questions de près et en même temps apprendre ce que nous pouvons aussi faire de mieux. Ce faisant, nous devons nous pencher sur 3 aspects particulièrement problématiques de l'Inflation Reduction Act. Premièrement, la logique « Buy American » qui sous-tend une partie de l'Inflation Reduction Act. Deuxièmement, les allègements fiscaux qui pourraient conduire à une discrimination. Certains en bénéficient, d'autres non. Et troisièmement, les subventions à la production qui pourraient conduire à une course aux subventions.
Voilà, après avoir estimé que l'IRA était avant tout une bonne nouvelle pour le climat, Ursula von der Leyen a fini par prendre conscience des dangers de ce plan pour l'industrie européenne.
Il faut voir d'où vient l'IRA. Hein. L'IRA, c'est en fait un plan que Biden voulait adopter sur les infrastructures. Il n'y est pas parvenu parce que même un certain nombre de représentants démocrates ne le suivaient pas, qui était un plan à 2 000-2 500 milliards de dollars. Il n'y est pas parvenu. Donc, il a trouvé un substitut qui est l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act. Donc, ce plan-là, très clairement, c'est Make Again Great America. Hein. C'est le même plan que Trump.
Transition énergétique, quand même. Ce n'est pas ce qu'aurait fait Donald Trump.
C'est le vernis. C'est très clairement le... Alors, c'est vrai qu'il s'engage. C'est vrai qu'il s'engage par rapport à Trump. Mais on part de très loin par rapport à Trump. Et Biden se repositionne par rapport au changement climatique et à la transition. Mais on part de très loin. Mais en effet, les conséquences, c'est quand même de réarmer les États-Unis économiquement, de faire en sorte que on achète d'abord des produits américains, de faire en sorte que les entreprises soient aux États-Unis ou au Canada ou au Mexique en fonction de l'ALENA, etc. Mais ça va quand même assez loin. Les États-Unis sont en train de réfléchir. Quand on dit qu'ils commercent entre amis, c'est des amis qui vont devoir se plier à leurs exigences. Parce que, attention, sur les microprocesseurs, par exemple, il n'est pas question que les États-Unis refusant de dealer avec la Chine, que les Européens, eux, dealent avec la Chine. Donc, ils vont imposer à leurs amis de ne pas faire des affaires, notamment sur les puces électroniques, avec la Chine, de manière à maintenir l'avance occidentale sur cette question.
Et alors, comment l'Union européenne peut-elle aujourd'hui riposter, Pauline Wibaud ?
Très bonne question.
Les réflexions sont en cours, j'imagine.
Exactement. Donc, on a bien vu la réaction de l'Union européenne et en particulier de la France et de l'Allemagne qui ont été très vives pendant le mois de décembre. Il me semble que ce matin, Bruno Le Maire a annoncé qu'il voudrait déposer justement un projet européen pour faire un IRA version européenne. Le gros problème de l'Union européenne, c'est d'abord la question des moyens, puisque on a les moyens pour mettre en place des choses. Les États-Unis, eux, sont déjà à la frontière. Donc on a du retard qu'on continue à accumuler. Le deuxième point, c'est aussi que l'Union européenne, ce n'est pas une seule voix. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas tous le même avis sur ces questions d'ouverture commerciale et de protectionnisme. On l'a vu dans le cadre de l'autonomie stratégique ouverte qui a posé énormément de débats au sein de l'Union européenne.
Des pays qui laissaient trop de place à la Chine dans leur économie, notamment.
Qui laissent trop de place à la Chine, mais qui sont aussi plus dépendants. Donc, d'un point de vue des investissements à l'étranger, en effet, on a des pays qui dépendent un peu plus de la Chine que d'autres, mais on a aussi des pays qui dépendent plus du commerce que d'autres économies et qui ont moins cette volonté... qui sont plus frileux dès qu'on commence plus frileux dès qu'on commence à parler de protectionnisme.
Sylvie Matelli.
Je crois que si on veut comparer en fait et puis justement ça répond à la question européenne, si on veut comparer la continuité entre la politique de Donald Trump et la politique de Joe Biden, moi je dirais que Donald Trump a eu un certain nombre d'intuitions poussé par la crainte qu'avait une partie de son entourage et ses plus proches conseillers de la Chine qui diabolisaient totalement la Chine, de manière probablement exagérée, mais il n'empêche que la diabolisation était là, et donc Donald Trump a tapé du poing sur la table avec des choses qu'il connaissait assez bien, c'est-à-dire des barrières tarifaires, sa guerre commerciale. Je crois que dans le cas de l'administration Biden, et l'affaire du Capitole, il n'y est pas totalement étrangère, c'est-à-dire quand Joe Biden arrive au pouvoir, il y a cette affaire du Capitole, et là, il fait travailler toutes ses équipes et la plupart des think tanks présents à Washington sur pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe. Et
quand vous qu'est-ce qui nourrit le soutien de Donald Trump?
Tout à fait, qu'est-ce qui nourrit ça? Il y a bien évidemment l'affrontement, il y a bien évidemment la question chinoise, parce qu'une partie des personnes qui ont essayé de menacer la démocratie américaine sont des gens qui ont été paupérisés par la mondialisation. Et donc là, on se rend compte qu'on est dans un système, que tout est lié, l'économique, le politique, le social. Ce qu'on avait probablement oublié au début des années 90, les théories du ruissellement, la pensée unique, etc., c'était l'idée que si on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tout le monde s'en sortira bien et tout le monde sera heureux.
Oui, c'est Krugman qui publiait « La mondialisation n'est pas coupable »
au milieu des années 90. Exactement, c'est « La mondialisation n'est pas coupable », etc. On s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça, que tout est lié, que le politique, le social, l'économique, tout est lié, même le changement climatique. Vous ne lutterez pas contre le changement climatique sans mettre en place une démarche systémique. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il est temps que les Européens comprennent qu'effectivement tout est lié et que l'intérêt national, l'intérêt européen, les questions économiques, etc., je pense que les institutions européennes européennes l'ont comprise et qu'elles sont en train de prendre un certain nombre d'initiatives. Elles ont déjà pris des initiatives qui sont particulièrement intéressantes, mais les institutions européennes ne sont rien sans les États. Et effectivement, les États alors se divisent et se divisent sur plusieurs points. Ils se divisent sur leur soutien et leur proximité avec les États-Unis pour des questions de sécurité nationale. Certains ne sont pas prêts à s'éloigner ou à s'opposer frontalement aux États-Unis.
La Pologne notamment.
Notamment. Ils se divisent aussi sur leurs intérêts en Chine. On voit l'Allemagne. L'Allemagne a de très forts intérêts en Chine, ce qui fait que dans sa relation aux États-Unis, elle essaie de trouver une voie d'équilibre, en fait, où à la fois elle ne va pas fâcher les Américains parce qu'elle a besoin de la sécurité américaine, et en même temps elle essaie de préserver ses relations économiques avec la Chine. Donc on voit que c'est très très compliqué dans le cas des Européens parce qu'ils sont 27.
Allez, Lady.
Moi, je pense que la solution, bon, ça fait des années que je fais des allers-retours à Bruxelles pour essayer de comprendre cette inertie intellectuelle, hein, de la part de nos élites, c'est qu'à chaque fois, on est dans la réaction. L'IRA, réaction, extraterritorialité du droit américain, réaction. Donc, il faut changer de cap. Là, il faut passer dans l'anticipation. Et pour aller dans l'anticipation et éviter tous ces problèmes, moi, je pense qu'il faut d'abord relancer la pensée stratégique sur ce qu'est l'affrontement économique aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de pensée stratégique en Europe.
Alors pour vous, c'est un manque de formation, notamment des élites européennes?
Mais complètement. Une anecdote très simple. Il y a eu une fois, pendant une année, un cours d'intelligence économique à l'ENA. Vous savez à qui il était donné? Uniquement aux étudiants étrangers de l'ENA. Il n'y a pas de cours sur l'affrontement économique à HEC, à l'ENA, à Sciences Po. Ça n'existe pas.
Ce à quoi tente de remédier l'école de guerre économique à laquelle vous êtes attaché.
Notamment, mais c'est la pensée qu'il faut relancer sur ces questions. Alors c'est vrai que, pour être honnête, moi depuis 4-5 ans, j'entends des mots que je pensais pas entendre à Bruxelles. Tout à coup, on reparle de souveraineté industrielle,
de relocalisation,
de résilience, de relocalisation, de politique industrielle avec les fameux PIEC.
C'était tabou autrefois.
Voilà, mais c'était complètement tabou. Les PIEC où on va accorder le fait que les États donnent de l'argent pour relancer des grands projets de type batterie électrique, etc.
À condition que ce soit dans une perspective de transition écologique. C'est
tout
ça
à fait. Il y a aussi des textes de loi, des réflexions. Alors, c'est pas des lois, c'est ou bien des règlements, ou bien des directives. Mais par exemple, il y a des réflexions sur comment lutter contre les subventions. Des entreprises qui sont boostées aux subventions et qui rachètent des entreprises européennes. Ça devrait plus se faire dans les années. Des réflexions aussi sur des lois anti-coercition. Comment empêcher qu'un pays fasse pression sur l'un des membres de l'Union européenne, pression économique, pour l'obliger à se soumettre la Chine, la Lituanie, par exemple, les embargos et les pressions économiques de la Chine sur la Lituanie. Il y a des réflexions sur la réciprocité. Si le marché de nos voisins américains, japonais, marchés publics ne sont pas ouverts, pourquoi les nôtres le seront-ils? Il y a des réflexions là-dessus. Et puis il y a des réflexions et des textes qui vont arriver sur la manière de s'organiser en cas de pénurie, ce qui s'est passé pendant la pandémie, où on a vu l'Allemagne fermer son marché aux masques. Et donc on va réfléchir aussi sur la manière d'être résilient en cas de très grave crise pour l'Europe, c'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises implantées en Europe produisent d'abord pour les Européens.
Donc on voit que ça bouge du côté de l'Europe, et en même temps, si l'Union européenne soutient davantage son industrie, comme elle a l'air de vouloir le faire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de course aux subventions dont finalement tout le monde sortirait perdant, Pauline Wibo?
Pour ça, il faudrait déjà que l'Union européenne mette vraiment en place ses subventions.
On en est encore loin.
Justement, elle y parlait des PIEC. On en a déjà un bon nombre qui ont été annoncés. Je suis pas sûre que, par contre, on en ait un aussi grand nombre qui ont été déjà mis en place. Donc, c'est long, ça prend du temps. Et puis surtout, ça va poser aussi la question, je pense justement parce qu'on parle de subventions, ça va poser la question encore du rapport vis-à-vis de l'OMC. L'Union européenne est toujours très attachée au multilatéralisme, est très attachée au respect du règlement de l'OMC et surtout dans cette idée de maintenir une concurrence juste pour les entreprises européennes. Et donc elle pousse pour une réforme de l'OMC pour pouvoir garantir ce qu'elle essaye de garantir sur son marché au niveau international. Mais là encore, on se retrouve avec un nombre incalculable de mesures qui sont toujours vraiment à la, ce n'est à la limite, mais qui ont complètement dépassé le cadre légal de ce qui est autorisé par l'OMC.
Vous diriez qu'il y a un blocage idéologique des institutions européennes qui serait trop favorable au libre-échange et pas assez au protectionnisme, Pauline Wibo?
Je ne sais pas si c'est trop favorable au libre-échange, mais en tout cas, il y a des barrières à certains niveaux. Si on reprend l'exemple de l'IRA qui met en place des subventions pour l'achat de véhicules électriques avec cette clause de préférence nationale, l'Union européenne ou au moins la France, on a des subventions pour l'achat de véhicules électriques, mais on n'a pas mis en place de clauses de préférence européenne. Donc on a des petites limites qui sont toujours là.
Je pense pas que ce soit une opposition au protectionnisme, en fait, qui ralentisse les décisions européennes. Je pense que l'Europe, c'est vrai, s'est construite autour de sa politique de concurrence, qu'elle est en train de réformer, mais on sent bien que c'est compliqué parce que les Européens se divisent. Mais il y a deux éléments, en fait, qui divisent les Européens sur la réforme de la politique de la concurrence. Le premier élément, c'est que la concurrence, c'est la garantie de prix bas. Et de prix bas pour le consommateur. Et l'intégration européenne, elle s'est aussi construite sur l'élévation du niveau de vie de la population et donc sur l'accès à des produits bon marché. Et donc ça, c'est une véritable difficulté. Et là, il y a effectivement presque une religion européenne en la matière qu'il faut arriver à casser, mais y compris chez le consommateur, parce que payer le prix bas si c'est pour à la fin ne pas avoir de job, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Payer le prix bas si c'est pour avoir quelque chose qu'on va jeter dans quelques jours, on sait que c'est très très mauvais pour le climat. Donc là, je pense qu'il y a une histoire à réinventer pour le consommateur. Et le deuxième élément, c'est la question des entreprises. Des entreprises qui ne sont pas soumises à une certaine concurrence sont des entreprises qui deviennent moins efficaces. Donc il y a aussi une question de prix bas, mais il y a aussi une question de cette concurrence qui permet de l'innovation, qui permet, vous voyez, c'est pas, la politique industrielle ne suffit pas à créer de l'innovation.
Alors, Sylvie, c'est pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Allez, Lady. Aux États-Unis, où on est beaucoup moins tatillant sur la concurrence, où il y a des acteurs émergents très forts, très puissants. Pour autant, il y a des GAFAM, et les GAFAM sont innovants.
Et les consommateurs ne sont pas perdants ?
Si, ils sont un peu perdants. Mais là où l'Amérique récupère ce qu'elle perd d'un côté, c'est en effet la puissance de ces GAFAM. Il n'y a pas de concurrence.
Et il y a un véritable pragmatisme, en fait, oui. Des institutions américaines. C'est-à-dire la concurrence, elle existe. Et la concurrence entre les GAFAM et pour l'innovation, elle a toujours existé. C'est tout ce petit tissu de start-up très bien financé par des acteurs privés. Et puis, à un moment donné, il y a aussi un terreau réglementaire favorable qui permet à ces entreprises de grossir.
On l'a dit, si le libre-échange a pu être accusé d'avoir appauvri une partie de la population mondiale, ce qui a pu nourrir le vote pour Donald Trump notamment et le vote pour le Brexit, les mêmes reproches peuvent peut-être être adressés au protectionnisme. Est-ce que le repli sur soi n'a pas un coût, en particulier pour les pays pauvres et les pays en développement, Sylvie Matelli ?
Oui, très clairement. Et ça va être le défi que nous allons devoir relever. C'est-à-dire, c'est un fait aujourd'hui que l'ensemble des grands pays, des grandes économies de la planète sont sorties d'une certaine naïveté, que la logique de réciprocité va s'imposer et c'est probablement une bonne chose. C'est probablement une bonne chose pour des tas de raisons, y compris pour la lutte contre le changement climatique, et on revient à l'IRA. Simplement, c'est vrai que ça met quand même de côté et ça marginalise un certain nombre de pays, les pays émergents, les pays en développement, et que pour le coup, ça, c'est pas une bonne chose du tout, parce que ça veut dire des instabilités, ça veut dire des crises géopolitiques et autres. Donc il va falloir intégrer aussi cette donnée dans l'équation.
Pour conclure, est-ce qu'on assiste vraiment aujourd'hui à un retour du protectionnisme ? Et si oui, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Alila ?
Alors, pour compléter ce que dit Sylvie, alors c'est vrai que par exemple l'Afrique, on peut considérer qu'elle peut être touchée par ce retour du protectionnisme, mais il y a en Afrique des penseurs, je fais référence notamment à Kako Nubukko, qui est commissaire à l'Union ouest-africaine monétaire, qui a publié récemment un livre qui s'appelle « Vers un nouveau néo-protectionnisme en Afrique ». Alors, avec toute une réflexion sur comment protéger les communs, c'est-à-dire les grands lacs, les montagnes, la jungle, etc. Donc, il y a une réflexion, même en Afrique, sur ces questions-là. Et je pense qu'il va y en avoir une au Brésil avec Lula, très clairement, sur la forêt amazonienne, etc. Donc, oui, si le protectionnisme...
Le protectionnisme se mondialise.
Voilà. Avec cette réflexion sur le respect de la transition écologique, etc., alors peut-être qu'on va atteindre un autre équilibre.
Pauline Wibo, peut-être un mot de conclusion sur cette tendance, ce retour du protectionnisme qui s'étend ?
On a un retour du protectionnisme, et comme je le disais tout à l'heure, avec des nouvelles formes auxquelles on n'est pas habitué, et ce qui, en tout cas pour ma part en tant qu'économiste, rend la tâche et l'analyse beaucoup plus compliquée, puisque on se retrouve face à des politiques auxquelles on n'a pas l'habitude de traiter, qui sont à la fois utilisées pour du protectionnisme, mais aussi pour de la subvention, pour de la politique industrielle, pour de la politique environnementale. Comment nous, derrière, en tant qu'analyste, on va faire pour faire la différence entre les deux, c'est difficile. Et surtout, avec toutes ces questions de géopolitique et de géostratégie qui viennent s'appliquer là-dedans, on se retrouve à avoir des variables pour lesquelles on n'a pas de métrique et qu'on peut difficilement, en tout cas pour l'instant, analyser et appréhender.
Merci beaucoup, Ali Laïdi, Sylvie Matelier et Pauline Wibaud d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages respectifs. Sylvie Matelier, c'est Géopolitique de l'économie et c'est paru aux éditions Erol. Ali Laïdi, c'est Une histoire mondiale du protectionnisme, publié aux éditions Passé Composé. Un grand merci à tous les trois. Demain, on se demandera si l'inflation est partie pour durer. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.